winds 100 knots to the west.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh,
Radio X.
Eh bien, c'est officiellement cette semaine qu'on changera de saison pour passer de l'été à l'automne. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Vous écoutez l'émission de Radio X-Files qui en est à sa 7e semaine déjà dans la nouvelle formule quotidienne en compagnie d'une vedette de la télévision, M. Christian Page. Comment ça va?
ça va bien.
Oui, t'as passé un beau week-end?
Oui.
C'est pourquoi je dis ça. En fin de semaine, j'ai fait une découverte incroyable sur ma télé intelligente. J'ai une télé Roku à la maison. Et il y a des chaînes de télé en continu, du live TV. Puis là, je vois qu'il y a une chaîne qui s'appelle Hunt TV. H-A-U-N-T. Puis là, je me dis, yes! On va parler sûrement de tueurs en série, de crimes. Et t'as été doublé en anglais, mon cher Christian, parce que les tueurs de l'occulte étaient sur cette chaîne-là. J'ai écouté deux épisodes. Celui du vampire. Pire dans, ben, en tout cas du moins, le jeune qui se croyait fermement être en mesure de devenir un vampire dans le nord du Pays de Galles et oui. Un autre qui a massacré le père d'une de ses bonnes amies avec qui il jouait en ligne à coups de machette dans son salon. J'ai écouté ces deux épisodes-là, puis quand je t'ai vu, j'ai fait « Hey, c'est Christian! » Mais j'aime mieux ta voix en français que celle qu'ils ont pris en anglais, pour être ben honnête.
Oui, effectivement. Ben, merci beaucoup. Non, c'est vrai, à un moment donné, quand ça fait très longtemps qu'on est dans cet univers-là, moi, ça fait quand même 45 ans, puis ça fait au moins une vingtaine d'années, 20-25 ans que je fais de la radio, de la télé. À un moment donné, on vient qu'on oublie un peu tout ce que l'on a fait, puis on est un peu surpris de... C'est vrai, bon, dans le cas de... C'est quand même pas si loin, là, quand même, crime occulte, on est... Oh, je te dirais, grosso modo, on doit être autour de 2014-2015.
J'ai vu 2015, oui.
Voilà, c'est ça, donc 2014-2015. Et effectivement, à un moment donné, ces séries ont été diffusées, bon, initialement à Canal D, après ça, en même temps, du côté anglophone, à Investigation, et ensuite, ça a été repris sur Netflix, et etc., sur plein de plateformes. Fait qu'à un moment donné, on vient qu'on oublie toutes les plateformes, mais bon, effectivement... Bon, je te le dirais, de temps en temps, je reçois un chèque dans la poste. Je ne sais pas qui me l'a envoyé. Pourquoi, mais je me dis que c'est bien.
Ben, c'est bien correct. Moi, en fait, j'ai été agréablement surprise de voir que c'était repris comme ça. En fait, tout le monde qui a des télés intelligentes à la maison, là, vous pouvez être sûr d'avoir plus de Christian Page dans votre vie avec Hunt TV. Puis je trouvais justement que c'était un bon petit pas. J'avais pas le goût d'aller sur Netflix ou j'avais le goût de prendre un break de ça. Puis tu sais qu'il y a des annonces, des petites publicités en français. Et en anglais, des fois de temps en temps. Mais sinon, on peut voir aussi Christian à la télé.
D'ailleurs, ce que j'aime, je le dis parce que c'est un petit peu narcissique, mais.
Vas-y, ben là, après 45 ans de carrière, Christian,
quand la série commence, Crime occulte, le premier nom qui apparaît à l'écran,
c'est
le mien.
Oui.
On voit, c'est Idée originale, Christian Page, puis après ça, il y a tout le reste qui suit. Mais bon, ben.
Et là, je me
merci
suppose...
beaucoup, Camille, c'est très gentil de ta part.
Ben, je te lance des fleurs, Christian, puis le P de ton nom, c'est pourquoi, hein? C'est Christian qui?
Christian, c'est pas le P, c'est un R, c'est Christian R Page.
Ah oui, R, ok, excuse-moi.
R, ben écoute, c'est un peu, je vais l'expliquer, parce que tu n'es pas la première qui me pose cette question-là. En réalité, jamais j'utilise ça. Mon nom, c'est Christian Page. Mais quand je me suis inscrit, tu vois, il n'y a pas un grand mystère là-dedans, là, on glisse pas dans le surnaturel.
Non, ok.
Quand je me suis inscrit à l'Union des artistes, il y a 25-30 ans.
Non, il y en avait un autre.
Il y avait déjà un type qui s'appelait Christian Page, que je connais pas, que je n'ai jamais rencontré, qui n'est plus maintenant dans le bottin de l'Union des artistes. Soit il s'est retiré, il a pas payé sa cotisation, ou il est décédé, j'en ai aucune idée.
Okay.
Je l'ai jamais rencontré. Mais quand je me suis inscrit, on me dit, bon, ben voilà, je me dis, mon nom, Christian Page, animateur scénariste, il y avait déjà dans la catégorie scénariste un certain Christian Page. Alors, on me dit, ben vous pouvez toujours utiliser votre deuxième nom de baptême. Donc, mon deuxième nom de baptême étant Robert. Hein, on s'est fait baptiser Joseph, Christian, Robert. Ben j'ai pris le Robert, fait que ça faisait Christian Robert ou Christian R, simplement pour me différencier de ce Christian Page qui existait déjà. Là, comme il ne figure plus au bottin de l'Union des artistes, ben j'ai laissé tomber le R, que je n'utilise jamais dans la vraie vie. Là, c'était réellement essentiellement une question. Là, pour pouvoir faire la différence dans le bottin de l'Union. Là, c'était vraiment essentiellement cette fonction-là. Fait que c'est pour ça que de temps en temps, on voit sur des séries, on voit apparaître Christian R. Page pour Christian Robert Page, pour me différencier de l'autre Christian Page, que je n'ai, comme je l'ai mentionné, je n'ai jamais vu, jamais connu, jamais vu d'ailleurs une réalisation signée Christian Page qui n'était pas la mienne. Là, mais bon, bref, c'était...
C'est bon signe, ça.
Exactement.
Et on s'en va aussi dans une réalisation d'un épisode, le 7e de la thématique des ovnis, l'histoire de Paul Benevitz et le MJ-12.
Ouais, écoute, j'ai choisi de parler de ça parce que, bon, tu vas comprendre un peu, on parle beaucoup des ovnis, puis là, actuellement, il y a toute cette histoire au Congrès, il y a des films qui sont secrets, pas secrets, bon. Et ça me fait penser, il y a toujours un peu cette exploitation de la thématique du secret derrière la question des ovnis.
Oui.
Et quand j'ai écrit mon livre « OVNI au Québec », j'ai évoqué ce que j'appelle les trois sacro-saints mensonges des ufologues. Hein. Dès que tu as une conversation avec les ufologues, t'es certain qu'on va te sortir ces trois éléments-là, qui sont en fait des mensonges. Le premier mensonge, c'est de nous dire « le gouvernement américain nie l'existence des ovnis ». Ça fait bien dans une conversation, mais la réalité est que, puis on en a souvent parlé, le gouvernement américain, pas plus que l'armée de l'air américaine, n'ont jamais nié l'existence des ovnis. Hein, combien de fois j'ai mentionné que lorsque le projet Blue Book s'est terminé, on a fait un épisode au complet sur le projet Blue Book, lorsque le projet Blue Book s'est terminé en 1969, les conclusions étaient publiées début 1970, dans les conclusions, c'était, nous avons enquêté sur 12 618 observations d'ovnis, de ce nombre, 701 sont demeurés non identifiés. Donc, si c'est pas une reconnaissance du phénomène OVNI, je ne sais pas trop ce que c'est.
Non, c'est qu'on n'a pas trouvé encore.
Voilà, la troisième conclusion, c'est celle-là qui fait mal aux ufologues et qui n'est pas tout à fait la même chose. L'armée dit, de ces 701 cas non identifiés, aucun d'entre eux nous force à accepter que ce sont des visiteurs extraterrestres. Ah ah! Elle est là, la distinction. C'est pas que l'armée nie l'existence des ovnis. L'armée dit ne pas avoir de preuves que les ovnis sont des engins extraterrestres. Mm. C'est pas du tout la même chose. Or, quand ça fait bien une conversation, t'es certain, là, t'as 5 minutes avec un ufologue, c'est sûr qu'il va te dire l'armée nie l'existence des ovnis. Alors que c'est pas vrai. Ce que l'armée dit, c'est qu'on n'a pas de preuve que les ovnis sont des engins extraterrestres. Il y a quand même une nuance qui est très importante.
Ce sont des phrases lanceuses de discussion.
Comme ce
qu'on appelle le small talk. Là.
Ouais, le deuxième grand mensonge que les ufologues, hein, dans cette conversation, t'es sûr qu'on va te sortir celle-là, on va te sortir la deuxième aussi. Il y a des preuves, mais le gouvernement nous les cache.
Mmh.
OK, on a des preuves, mais on nous les cache. Moi, écoute, ça fait 45 ans que je suis là-dedans. Ma première année dans l'univers du paranormal et des ovnis remonte à 1976. Et la première chose qu'on me dit quand je me suis embarqué là-dedans, ça a été... La révélation est pour demain parce que le gouvernement nous cache des preuves, mais les preuves, bientôt, il va y avoir la grande révélation. Et 45 ans plus tard, j'entends toujours le même discours. On a des preuves, mais l'armée nous les cache, le gouvernement nous les cache, puis ça s'en vient.
Et bon, tu attends encore cette grande révélation.
Donc ça, c'est le deuxième grand mensonge, dans la mesure où je dis un mensonge, mais je sais pas si c'est vraiment un mensonge. Ça se peut que le gouvernement nous cache des preuves, mais jusqu'à maintenant, on les a pas vues, ces preuves-là. Et ça perdure. Troisième grand mensonge, là on est rendu à 4 ou 5 minutes dans notre conversation avec les ufologues. Après 4 ou 5 minutes, tu vas avoir le troisième grand mensonge, le troisième sacro-saint mensonge qui est « on nous discrédite ». Là, écoutez parler les ufologues. Il y a plein d'organismes tentaculaires du département de la Défense qui œuvrent de manière à discréditer les ufologues. Écoute, il suffit d'assister à 3 ou 4 congrès sur les ovnis, puis tu vas vite comprendre qu'on n'a pas besoin de les discréditer. Ils le font très bien eux-mêmes. Écoute, à un moment donné, fais l'exercice, promène-toi sur les différents sites qui parlent d'ovnis dans une semaine, tu vas voir des inepties tout à fait aberrantes. Là. Et puis là, tu te dis, bon, une journée, c'est le gouvernement. On a trouvé une base d'extraterrestres dans l'océan. Puis le lendemain, il y a 1 million d'extraterrestres qui vivent sur la Lune, etc., etc. Là, c'est bon.
Sans les traiter d'extrémistes, c'est qu'ils sont tellement enfouis, là, sont calés très, très profond dans leurs croyances, fait qu'ils sont impossibles à récupérer, je trouve, ces gens-là.
Ouais, des fois, t'as des paradoxes. Hein? C'est le même type qui dit « On n'a pas été sur la Lune. » Puis dans la phrase suivante, il dit « Ah, les Américains ont des bases sur Mars puis les exploitent depuis 20 ans. » Attends, on n'aurait pas été sur la Lune, mais on a des bases sur Mars. Tabarnouche, c'est quand même incroyable. Tu dis, il y a un paradoxe dans ce que tu viens de me dire.
C'est ça.
Mais ces gens-là s'en rendent pas compte. Donc, le troisième grand mensonge, c'est de dire le gouvernement nous discrédite. Ce qui est faux. Le gouvernement n'a pas besoin de discréditer les ufologues. Je veux dire qu'ils le font très bien. Écoute, j'ai toujours cet exemple-là en tête, mais c'est quand même assez croustillant. À un moment donné, j'assiste à une soirée d'ufologie. Et là, il y a une femme qui est assise. Il y a comme un souper à un moment donné dans la soirée. Et là, on est tous assis autour d'une table. Et là, il y a une dame qui dit à l'audience qui est là, dis-moi, j'enquête sur le chupacabra. Le chupacabra, c'est un animal, une créature, un cryptide, en fait, un animal non reconnu par la science et dont on ignore réellement l'existence. C'est un cryptide, donc, qui ressemblera un peu à un kangourou avec des pattes griffues et des ailes dans le dos. Là, tu vois un peu le genre.
Ouais.
Ça ressemble un peu à une gargouille. Et cette créature-là elle fait partie un peu du folklore hispanophone d'Amérique centrale. Elle est apparue, on a commencé à parler de cette créature-là au milieu des années 90. Elle aurait fait son apparition à Porto Rico. Et le nom, d'ailleurs, chupacabra veut dire le suceur de chèvres. Donc, cet animal s'en prenait apparemment à des animaux de ferme, principalement des bovidés, puis des chèvres dont il buvait son sang, d'où le nom de chupacabra. Là, bon, évidemment, tu dis c'est une histoire de créature un peu fantaisiste. Le chupacabra, c'est comme une histoire de vampire ou, bon, peu importe, le bonhomme satyre ou n'importe quoi. Et là, à un moment donné, la femme est là et elle raconte cette histoire-là. C'est bon, OK, c'est un peu folklorique parce que toutes les enquêtes qui ont été menées ont toutes démontré que les animaux qui avaient été attaqués de cette manière-là avaient été attaqués par des animaux sauvages et principalement par des chiens sauvages qui s'attaquaient à des animaux de ferme. Donc le mythe du chupacabra est venu s'ajouter à ça. C'est un peu comme si quelqu'un disait, bon ben voilà, ici au Québec, on a un animal qui a tué des animaux de ferme et là on se met à imaginer que ça doit être, je sais pas moi, le monstre du lac Memphrémagog qui sort du lac Memphrémagog pour aller égorger des cochons. Là. Bon, c'est un peu la même chose. Donc les enquêtes montrent que ce sont des chiens sauvages qui ont fait la plupart des crimes, entre guillemets, attribués au chupacabra, l'ont été par des chiens sauvages. Et là donc, cette dame-là est autour de la table et elle commence à lui parler de son histoire. Et puis à un moment donné, elle dit, puis là, chupacabra, il est comme un cri de ralliement, tu sais. Puis là, elle dit, moi, j'étudie ça, puis OK, on écoute ça. Puis parce que t'as, écoute, je veux pas être méchant, mais dans ces réunions-là, t'as des gens qui sont parfaitement équilibrés, mais t'en as quelques-uns qui ont besoin d'un petit chapeau en aluminium, là, tu sais, tu vois le genre.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis à un moment donné, la dame se lève et elle nous a imité le cri du chupacabra.
Ça doit être impressionnant, pareil. Hein?
Là, t'es assis au bout de la table, t'as la tête penchée dans ton spaghetti, puis là, écoute, tu rigoles. Tu sais, tu es vraiment... Là, tu dis, écoute, s'il y avait quelqu'un de l'armée là ici ce soir, il n'y aurait pas besoin de discréditer l'Assemblée. Je pense que ça vient d'être fait. Là. On vient de passer numéro 2. T'sais. Donc, les ufologues ont souvent cette tendance à dire on nous discrédite parce que nos travaux sont pas sérieux, parce qu'il y a ci et ça, mais en réalité, les ufologues n'ont pas besoin de l'armée pour se discréditer. Ils le font très bien eux-mêmes. Mais ça veut pas dire que de temps à autre, on n'a pas donné un petit coup de pouce.
Oh.
Et ce petit coup de pouce... C'est l'affaire Paul Benevitz. L'affaire Paul Benevitz, c'est pas le seul coup de pouce, mais c'est un coup de pouce très représentatif.
Okay.
Donc, ça, et le MJ-12 vient s'inscrire un peu dans cette foulée-là. Donc, Paul Benevitz et le MJ-12, c'est un petit coup de pouce. C'est pas coutume, comme on dit, c'est rare, c'est pas coutume, mais ça peut arriver. Et le MJ-12 et Paul Benevitz en font partie. Donc, ce sera notre sujet de ce soir dans cette thématique des ovnis. Et j'en parle parce que, bon, bien sûr, actuellement, il y a toute une effervescence autour des enquêtes menées par le Congrès, en tout cas demandées par le Congrès, faites par l'armée, le département de la Défense, du côté du Pentagone et du côté de la US Navy. Et là, j'ai vu passer cette semaine une nouvelle disant « Ah oui, l'armée américaine aurait d'autres films montrant des ovnis, mais ces films sont classés top secret, donc on retombe à nouveau dans cette conspiration, les grands mensonges, on nous cache des choses. » Ce qui est possible, hein, faut pas l'exclure, c'est bien possible, mais ça veut pas dire que parce qu'on nous cache une information, qu'on nous cache un dossier ou une image, que ce soit représentatif d'une visite extraterrestre ou d'une théorie du complot. Je te donne un exemple, puis je pense que les auditeurs vont bien comprendre la nuance. Lorsqu'il y a eu la crise du verglas, c'était en 1998, je crois, oui. La crise du verglas. Quand il y a eu la crise du verglas, à un moment donné, à Montréal, je sais pas à Québec, mais à Montréal, à un moment donné, on est arrivé, il restait à peu près, là, comme tout était en panne, les usines d'épuration d'eau dans le Grand Montréal étaient tombées également en panne. On n'arrivait plus à alimenter l'eau potable, en fait, les réservoirs de filtration. Et on était rendu là à la limite. On avait encore pour quelques heures d'eau potable, en considérant l'utilisation quotidienne. On avait encore quelques heures d'eau potable, mais après, c'était fini. Il n'y avait plus d'eau potable. Alors, à ce moment-là, le gouvernement du Québec, c'était Lucien Bouchard. Et Lucien Bouchard a été informé par Hydro-Québec que, on essayait de réalimenter à nouveau les usines d'épuration de Montréal, mais ça restait très problématique. Lucien Bouchard s'est retrouvé devant une situation. Ou bien il l'annonce au public, ou il dissimule l'information. Et il s'est dit, si je dissimule l'information, on se retrouve avec plus d'eau potable, la situation va être dramatique. Mais en même temps, si je dis qu'on a pratiquement plus d'eau potable, les gens vont se présenter dans les dépanneurs et vont littéralement s'égorger pour une bouteille d'eau.
C'est un bon dilemme. On l'a fait avec le papier de toilette pendant la pandémie. Pour vrai, t'sais, on a dit, oh, il s'en vient une pénurie de papier de toilette. Le réflexe de la société, c'est la panique. Puis c'est un effet de foule.
Donc, Lucien Bouchard a agi de manière très intelligente. Il a fait ce qu'on pourrait dire un coup de dé et il a gagné son pari. Il a dit, je ne le dirai pas à la population. Je crois de mémoire qu'il a envoyé quelques messages en disant, écoutez, essayez d'économiser l'eau, ici ou ça, mais sans dire qu'on était dans une situation dramatique, alors qu'on était dans une situation dramatique. Et heureusement, avant que ces réserves soient épuisées, on a réussi à réalimenter les usines d'épuration et on s'en est tiré à bon compte. Donc, il a fallu faire un choix. Lucien Bouchard était devant un dilemme, puis il a fait son choix et il a gagné son pari. Mais je pense que bien souvent, dans la question des OVNIs, c'est un peu la même chose. Cacher une information ne veut pas dire qu'on nous cache la présence d'extraterrestres ou quoi que ce soit.
Ou toute la vérité non plus.
Ouais,
non,
c'est ça. Donc, il peut y avoir plein d'informations qui sont dissimulées par les autorités. Elles sont dissimulées pour différentes raisons. Elles sont dissimulées parce que c'est des secrets militaires, parce qu'on ne veut pas donner de l'information aux puissances étrangères, parce qu'on est en plein milieu d'un programme de développement technologique. Si les gens ne peuvent pas aller dans la zone 51, il faut quand même savoir que cette base-là, la base de la zone 51, qui est gérée par la base d'Edwards Air Force Base, en fait, c'est une dépendance de la base d'Edwards Air Force Base. C'est une base dans un endroit très isolé qui se trouve dans le désert du Nevada. Donc, si les gens peuvent pas aller là, je pense qu'on en a beaucoup entendu parler de cette base de la zone 51. On en a parlé dans des films. Tu sais, je pense que c'est devenu un peu mythique. Aujourd'hui, on dit, c'est comme dans la zone 51. Mais bon, pourquoi les gens ne peuvent pas aller là? Certains diront, c'est parce qu'on nous cache des ovnis, des extraterrestres. C'est possible, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que cette base-là, c'est la base numéro un du développement en avionique de l'armée américaine. On est en train de construire dans ces bases-là, à l'abri de ces hangars, on est en train de construire les avions de demain, les drones de demain. Donc, tu comprends qu'on doit garder le secret sur l'utilisation ou le développement militaire qui est fait dans ces zones.
C'est ça. Donc, déjà qu'on a de l'espionnage, des fois, de la Russie.
Industriel ou militaire, oui, c'est ça. Donc, tu comprends que, oui, c'est vrai qu'on nous empêche d'aller dans la zone 51. Oui, c'est vrai qu'il y a des informations qui touchent ces bases-là, qui ne sont pas accessibles au public, mais il peut y avoir mille raisons pour lesquelles cette information n'est pas accessible. Et la première étant, bien sûr, la protection de secrets d'État qui relèvent directement du développement technologique. Et dans le cas de la base de la zone 51, il faut se rappeler qu'au cours des 30-40 dernières années, les avions les plus secrets du monde ont été construits dans ces bases-là, qu'on pense à l'avion U-2 dans les années 50, le SR-71 Blackbird qui est sorti dans les années 60, ensuite l'avion F-117 Stealth Fighter dans les années 80, le bombardier B-2, les drones Sentinel, qui ressemble à des petits avions avec des grosses bulles sur le nez, là, t'en as probablement vu, donc qu'on a beaucoup utilisé durant la guerre, par exemple, en Irak, etc. Donc, c'est des drones Sentinelles. Tous ces appareils-là, qui bénéficient pour la plupart d'une technologie furtive, dite invisible, ont été développés dans la zone 51. Donc, c'est la raison, une des grandes raisons pour... Ça se peut qu'on nous cache également une soucoupe volante dans un hangar.
Mais on comprend pourquoi il n'y a pas de porte ouverte souvent.
Voilà, il n'y a pas de journée porte ouverte dans 51. On n'en fait pas. Bon. Fait que, bien sûr, on nous cache de l'information. Et c'est bien possible que, à travers ça, on nous dissimule de l'information sur les ovnis, mais la dissimulation d'information n'est pas forcément synonyme qu'on est visité par des extraterrestres ou quoi que ce soit. Donc, dans le cas de l'affaire Benevitz, l'affaire du MJ-12, ben, c'est un peu des coups de pouce qu'on a fait pour dissimuler de l'information, mais pas forcément dans le sens que l'on penserait. Ben, bref, on va en revenir parce que c'est effectivement une histoire qui est fascinante.
Excellent, Christian. Donc, est-ce que tu voulais qu'on commence avec ce sujet? Veux-tu qu'on fasse une pause et qu'on entame le
ben
le
écoute,
sujet?
Je t'aurais dit, on va lancer le sujet en commençant par la bande-annonce de la série, qui était d'ailleurs une très bonne série. Dommage qu'elle n'ait perduré que 2 années à la télévision. C'était la série Dark Skies. Donc, on envoie la bande-annonce et on revient avec notre thématique du jour.
C'est parti.
1947, Roswell, New Mexico. An event takes place that will change history forever. They have come. An alien force of incomparable power with a deadly ultimatum.
They just demanded our unconditional surrender.
Now the battle has begun.
We're about to bet the entire human race.
And so has the cover-up.
I am nothing but a figment of your imagination because this incident never happened.
1961. One man discovers the truth.
I saw it.
You don't know what you saw, John.
One man stands in their way.
If you don't keep the President of the United States in the dark about this, it's wrong.
President Kennedy knows what he needs to know.
One man may hold the key to survival.
What you're doing can't stay hidden forever.
All our days are numbered.
John Lowengard.
You think it's the Russians?
You tell me, Mr. Lowengard.
Does this look Russian to you?
Now it's a furious...
Help, he's trying to kill me!
Hopeless...
Dear God, help us.
Desperate fight... against the deadly hive... and a dark conspiracy. They walk among us. Anyone can be hive.
It's too late, John. We have her.
Time is running out. Will they survive... Guys.
Dans quelle histoire tu nous embarques ce soir?
Donc, dans Dark Skies, c'est une très bonne série qui a été diffusée essentiellement, en fait, qui a été produite uniquement entre 1996 et 1997, donc 2 années, 2 saisons. Et ça s'inscrivait un peu dans la foulée de la série des X-Files qui avait pris une pause, là, qui avait marqué, en fait, qui a été littéralement un tournant dans l'histoire de la télévision au niveau des séries de science-fiction et fantastique. Donc, X-Files qui est devenu un peu une référence. Donc, c'est la série Dark Skies s'inscrivait un peu là-dedans. Et ce qu'on retrouve dans Dark Skies, c'est d'ailleurs une thématique qu'on retrouvait aussi dans les X-Files, alors que Mulder et Scully enquêtaient sur les phénomènes paranormaux. Et peu à peu, dans la série des X-Files, on a vu dans les dernières années, les dernières saisons, ça tournait surtout autour du phénomène des ovnis, alors que c'était plus éclectique dans les premières saisons.
OK.
Et ce qu'on tournait, et quand on regardait les X-Files, comme quand on regarde Dark Skies, qui je le souligne, hein, si vous n'avez pas vu cette série-là, c'est une très, très bonne série. Ça s'appelle L'ultime vérité, je crois, en français. Dans ces 2 séries, ce qu'on retrouvait, c'est en trame de fond, une organisation, un petit groupe de gens à la solde du gouvernement, dont l'objectif premier est de dissimuler toute information concernant les ovnis ou la présence des extraterrestres, et dans un deuxième temps, intimider les témoins, voire même les faire disparaître pour s'assurer que le secret de la présence ou des manifestations d'ovnis ou de visiteurs extraterrestres soit gardé secret. Donc, on retrouvait ça dans l'histoire des X-Files. On retrouvait ça aussi dans Dark Skies. D'ailleurs, dans les 2 cas, que ce soit l'agent Mulder ou l'enquêteur dans Dark Skies, leur mission première, c'est de faire éclater la vérité et, bien sûr, d'avoir à combattre ses ennemis de l'ombre. Dans la réalité, ce sujet-là, l'idée d'une petite organisation, une société secrète au sein du gouvernement américain pour dissimuler l'information sur les ovnis, n'est pas essentiellement un fantasme. Elle fait partie, je dirais, elle fait partie des éléments folkloriques qui sont associés aux ovnis. Et dans le discours ufologique, cette petite organisation s'appelle le MJ-12. Mais on va y revenir parce que avant d'aborder la question du MJ-12, le MJ-12 étant, disons, le plat principal, il y a eu l'entrée. Et l'entrée, ça a été l'affaire Paul Benevitz. Donc, l'affaire Paul Benevitz débute en 1980. On est à l'automne 1980, justement à la même période que ces temps-ci. Là, on est donc fin septembre.
Okay.
Ce type, Paul Benevitz, faut le mentionner, c'est un physicien. Il est propriétaire d'une compagnie qui s'appelle Thunder Scientific, une petite compagnie de fournitures électroniques. Il habite sur les hauteurs d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et c'est un individu qui a des moyens, financièrement qui a des moyens. C'est un individu très brillant, hein, une formation académique de physicien. Mais c'est un passionné aussi de la question des ovnis. Et de sa résidence, il peut voir la base de Kirtland, la base militaire de la US Air Force, qui se trouve en banlieue d'Albuquerque. Donc, il lui arrive, à l'occasion, il a installé comme une espèce de télescope, et de temps en temps, il regarde les activités militaires qui se passent sur la base de Kirtland. Il faut quand même l'avouer, Paul Benevitz, c'est un type aussi qui fait un peu dans les théories du complot. Donc, il rejoint par la pensée, cette pensée qui est très répandue au sein des amateurs d'OVNI, le gouvernement sait des choses, nous cache des choses, etc., etc. Donc, à un moment donné, à l'automne de 1980, Paul Benevitz appelle la base de Kirtland. Et là, il demande à parler à des responsables, et là, il raconte une histoire assez incroyable. Il dit, depuis quelque temps, j'ai mon télescope, j'observe les activités militaires, et il raconte qu'il a vu des lumières un peu mystérieuses, qu'il attribue bien sûr à des ovnis. Il dit, j'ai vu ces lumières, ces ovnis, survoler les installations voisines de la base de Kirtland, des installations atomiques. C'est quand même pas rien, là, des installations atomiques qui sont situées à Manzano et à Coyote Canyon. Là, il dit, j'observais la base, j'ai vu ces lumières au-dessus des installations atomiques. Et il va même plus loin, il dit avoir enregistré avec un système à ondes courtes, un peu comme pour les gens qui font du camionnage, on connaît tous les CB.
Ouais, hein? OK.
Donc, voilà, il y a comme un système à ondes courtes comme celui-là, et puis il dit avoir capté des signaux, une espèce de code numérique, c'est des un peu comme si c'était du morse.
OK.
Il est convaincu qu'il a capté des signaux radio, et il est bien sûr persuadé que tout ça est lié à des activités extraterrestres. Donc, il contacte la base, les informe, hein, devoir patriotique, il les informe de cette situation-là, et la base de Kirtland décide d'envoyer deux enquêteurs pour récupérer ou enregistrer le témoignage de Paul Benevitz. L'un de ses agents s'appelle Richard Doughty, il est attaché au bureau des enquêtes spéciales de l'armée de l'air, dont l'acronyme est AFA aussi, et ils envoient aussi un certain Jerry Miller, qui est conseiller scientifique à la base de Kirtland. Donc, Miller et Doughty se rendent chez Paul Benevitz, commencent à discuter avec lui. Là, bien sûr, Benevitz raconte l'histoire. J'ai vu ces lumières mystérieuses. Assez rapidement, les deux enquêteurs se rendent compte qu'ils ont affaire à une espèce d'illuminé. Hein, le type lui parle, il mélange les extraterrestres, il est convaincu de toutes sortes de trucs.
Que la radio lui parlait.
Ouais, qu'il reçoit des messages. Et là, il commence à raconter. Il y a une époque, et en particulier là, dans cette période, la fin des années 70, début des années 80, va se développer une espèce d'idée que les extraterrestres pourraient habiter dans des bases souterraines, et c'est ce qu'on va appeler dans le milieu des ovnis the fringe, hein, la frange, des gens plus extrémistes dans le discours ufologique, parce que la plupart des gens disent les ovnis sont des vaisseaux spatiaux extraterrestres qui nous rendent visite, voilà, c'est un peu le discours qu'on retrouve, mais il y a des gens qui vont plus loin dans ce discours-là. Oui, les extraterrestres sont là, puis ils sont en train d'essayer de créer une race hybride, ils vivent sous terre, Terre, tu vois, un scénario un peu plus sordide.
L'ancêtre un peu des reptiliens, hein, Christian?
Oui, oui. Ben, en fait, c'est eux autres. Ce sont les reptiliens.
Ah, okay.
Et dans ce discours-là, donc, le gouvernement américain travaillerait de concert avec des extraterrestres qui occuperaient certaines de ces installations souterraines. Benevitz fait dans ce discours très extrémiste. Donc, Doty Miller, en écoutant Benevitz, se disent, ben, ce type-là, c'est un peu illuminé, mais c'est un illuminé intelligent et qui a des moyens, hein. Faut bien quand même, c'est pas le simple type que tu rencontres, là, assis sur un banc de parc qui parle tout seul, là. C'est-à-dire que Benevitz a des moyens, c'est un gars intelligent. Mais en même temps, quand Doty et Miller écoutent son discours, ils se rendent compte, en fait, que Benevitz est tombé sur, à force de regarder les activités de la base de Kirtland et capter ces fameux signaux, messages codés extraterrestres, en fait, il est tombé sur un programme secret du département de la Défense. La base de Kirtland commence à utiliser de plus en plus des drones et également des avions furtifs, et ils ont développé des systèmes de communication qui utilisent des lasers. Et le fameux message capté par Paul Benevitz n'est pas un message extraterrestre, mais un système de codage lié à l'utilisation des lasers de la base. Bref, lorsque Doty et Miller retournent à la base et font un résumé de la situation, on se rend compte que Paul Benevitz, même s'il délire un peu autour de ses extraterrestres et de ses ovnis, c'est quand même un type qui est devenu dangereux. Dangereux parce qu'il surveille de beaucoup trop près les activités de la base de Kirtland. Donc, on se dit, il faut absolument le faire taire. Mais, contrairement aux amateurs d'OVNI qui ont souvent des solutions extrémistes, on n'enverra pas un tueur à gage. On se rend compte que Paul Benevitz est déjà embrigadé dans toutes sortes d'histoires un peu extraordinaires qui touchent autour de la question des OVNI. Alors, on se dit, on va simplement l'aiguiller vers autre chose. Donc, Doty, Miller vont retourner voir Paul Benevitz et il lui explique comme ça en disant, tu sais, c'est l'aspect du chummy-chummy. Viens ici, on va se parler un petit peu. Et là, ils disent à Benevitz, effectivement, t'es tombé sur quelque chose, ça doit être effectivement des ovnis. Il n'est pas exclu que le message que tu as capté, soit effectivement un codage extraterrestre. Ça nous intéresse. Et donc, Benevitz se sent de plus en plus impliqué. Hein? Il a l'impression qu'il fait partie de la confidence.
Je t'écoute, puis je vois pas comment ça peut bien virer. Tu sais, de se faire enfler la tête. OK, on parle d'une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, là, mais les entrevues à la radio, dans les journaux, le mot va se passer puis ça va dérailler, Christian, je le sens.
T'as tout compris, parce que c'est ce que craignent aussi les autorités de la base de Kirtland. Ils se disent, tu as raison de bien mentionner qu'on est avant les réseaux sociaux. Mais les amateurs d'OVNI se réunissent, il y a des congrès, ils échangent, ils ont des espèces de des magazines qu'on appelle des fanzines. Il publie à travers ça, ça s'échange, c'est des newsletters et chacun se passe ça. Donc l'information se véhicule assez bien, pas aussi bien que quand va arriver l'internet et Facebook, mais l'information circule assez bien. Okay. Et ce que l'on a peur, bien sûr, c'est que Paul Benevitz, c'est un type qui est, on pourrait le décrire en son temps, un sonneur d'alerte. Hein? Il va utiliser tous les moyens à sa disposition pour communiquer l'information. Et comme il s'intéresse beaucoup aux ovnis, il est très omniprésent dans les fanzines, les publications. Il est un peu partout. C'est un type qui est continuellement sur les forums pour qu'on puisse parler de la question des ovnis. C'est une passion pour lui. Alors, on se dit, on va exploiter cette passion-là. Donc, Richard Doty reçoit de ses supérieurs la mission d'envoyer quelque part ailleurs sur une voie de garage notre fameux Paul Benevitz. Donc, pour ce faire, Richard Doty va engager un type qui s'appelle William Moore, lequel William Moore n'est pas tout à fait étranger au phénomène des ovnis. Il est impliqué plus ou moins activement dans l'univers des ovnis. En 1980, ce même William Moore va publier un livre sur l'affaire de Roswell. Hein, Roswell, qui est une référence, hein, d'ailleurs, dans la bande-annonce qu'on a entendue de Dark Skies. Il commence en nous disant, ah oui, 1947, un objet s'écrase à Roswell. Roswell, c'est cette grande histoire devenue mythique d'un ovni qui se serait écrasé dans le désert du Nouveau-Mexique en juillet 1947 et dont les autorités militaires auraient récupéré l'épave ou une partie de l'épave et auraient récupéré également des pilotes. Donc, ça varie selon les versions entre 4 et 7 pilotes. Donc, c'est une grande histoire devenue mythologique dans l'univers des ovnis. Et William Moore, en 1980, va écrire un ouvrage avec Charles Berlitz. Berlitz, qui est connu dans l'univers du paranormal pour avoir signé plusieurs livres sur le triangle des Bermudes. Ce Berlitz, d'ailleurs, qui est l'héritier de l'école de langue Berlitz. Donc, on voit un lien un peu étrange, mais bon. Et Berlitz, en réalité, son nom apparaît sur la couverture du livre de William Moore. C'est essentiellement une volonté de l'éditeur. En fait, le livre a été écrit entièrement par William Moore. Il y a eu un auteur un peu un ghostwriter derrière qui s'appelle Stanton Friedman, qui est un personnage important dans l'histoire des ovnis et notamment dans l'affaire de Roswell. Donc Friedman a écrit un peu, mais il n'est pas cité dans l'ouvrage. Sur la couverture apparaît le nom de William Moore, qui est le principal auteur du livre, et le nom de Berlitz apparaît, mais Berlitz en réalité n'a pratiquement pas écrit une seule ligne du livre. Mais comme Berlitz est un gros vendeur chez cet éditeur, l'éditeur a demandé à ce que le nom de Berlitz figure sur la couverture pour mousser les ventes. Fait que c'est comme ça que le livre, L'incident de Roswell, paraît en librairie en 1980 avec, comme auteur, Charles Berlitz et William Moore. Quoique l'ouvrage, comme je l'ai mentionné, est davantage l'œuvre de William Moore. Donc ce William Moore, il est dans l'univers des ovnis depuis 3 ou 4 ans. Il commence à être une figure connue, va publier ce livre en 1980. Donc, il va être recruté par Richard Doughty, cet agent spécial de l'armée de l'air américaine, pour finalement l'aider à envoyer Paul Benevides sur une voie de garage. Finalement, ils vont élaborer ensemble un scénario incroyable. Ils vont aller voir Paul Benevides, et lui, Paul Benevides, il est persuadé que, comme je l'ai mentionné, qu'il existait des bases souterraines dans lesquelles le gouvernement travaillait de concert avec les extraterrestres. Okay. Alors, on va l'aiguiller vers ça. On va lui dire que dans la région de Dulce, dans le nord de l'État du Nouveau-Mexique, tout près de la frontière du Colorado, une toute petite bourgade agricole, on va lui dire qu'il y a là une base d'extraterrestres sous terre à 7 niveaux et que dans cette base, parce qu'évidemment, on joue la carte de « on est chumé-chumé », là. Donc, à nouveau, Doughty s'en va voir Benevides. Il lui dit « faut pas que tu parles de ce que tu as observé au-dessus de la base de Kirkland. Faut pas que tu communiques ces espèces d'enregistrements que tu as obtenus. » Mais il dit « en échange, je suis prêt à te livrer des secrets. » Donc, Benevides, tu comprends, comme un enfant dans un magasin de jouets, il est tout excité. Et là, on lui dit « écoute, tu as raison, il existe une espèce de base souterraine, tu as raison d'y croire, je te confirme, ça existe. » Et cette base souterraine, il y en a une dans le nord de l'État du Nouveau-Mexique, elle se trouve à Dulce, tout près de la frontière du Colorado. Et là, on lui dit que la base en question, elle a 7 étages, bon, etc. Et tout ça est construit sur un scénario élaboré par Richard Doughty et William Moore. Et donc, on présente ça à Paul Benevides. Comme je te le dis, Benevides est excité et on lui dit, bien sûr, faut pas que tu communiques cette information-là, c'est du donnant-donnant, tu acceptes de ne pas parler de ce que tu as observé, tu acceptes de ne pas communiquer les enregistrements que tu as obtenus, tu nous donnes d'ailleurs ces enregistrements et dont lesquels tu nous garantis qu'il n'existe aucune copie, et nous, en échange, ben, on raconte un peu l'histoire de la base souterraine de Dulce, dans laquelle se trouvent à la fois des militaires et des extraterrestres qui travaillent de concert. Alors, évidemment, Benevides mord à cet hameçon. On lui dit, tu ne dois pas communiquer ça, c'est vraiment du donnant-donnant, du secret. Mais évidemment, on sait bien ce qui va se passer. Je pense que Richard Doughty n'était pas encore remonté dans sa voiture que déjà Paul Benevides était au téléphone pour raconter l'histoire. Hey, des militaires sont venus ici, puis ils m'ont conté qu'il y avait une base sous Dulce. Puis écoute, et là, l'histoire se répand dans ces milieux ufologiques. Je vais revenir ensuite sur les propagandistes de l'histoire, mais très rapidement, cette histoire de la base souterraine de Dulce se met à circuler. j'essaie quand même de m'imaginer la tête du fermier qui, lui, a une ferme laitière. Et soudain, il se met à voir des voitures autour de sa ferme laitière, des gens avec des jumelles qui commencent à l'observer.
Des détecteurs de métaux.
Des détecteurs de métaux, des gens qui filment dans l'espoir de voir quelque chose.
Le fermier qui dit, voyons, je suis riche, moi, je ne sais pas.
C'est ça, le type a dû pas mal se trouver, le type aurait dû trouver ça un peu étrange. Donc, bref, l'histoire de Dulcé commence à circuler et ça devient l'histoire intéressante. Donc, Paul Benevitz cesse de s'intéresser à la base de Kirtland et cesse de s'intéresser aux communications qu'il a pu capter de la base de Kirtland. Et en même temps, on l'a aiguillé vers autre chose. On l'a aiguillé complètement dans le nord de l'État, vers une petite communauté agricole. Et merci, bonsoir. Et là, Paul Benevitz commence à raconter ses histoires. Évidemment, même si on lui a dit de se taire, il raconte ses histoires à bracadabrante. Et très rapidement, l'histoire de la base souterraine de Dulcé se répand comme une traînée de poudre. Et certains vont prendre le train en marche. Et ça, c'est souvent, c'est amusant de voir quand on se met à raconter des trucs. Si demain matin, par exemple, tu te dis... On lancerait comme ça en onde ce soir. Bon, un ovni a été observé, par exemple, au-dessus de Limoilou. Ben, crois-moi que demain matin, des gens vont se mettre à téléphoner en disant qu'ils ont vu l'ovni de Limoilou.
Ouais.
Tu comprends? C'est toujours comme ça. On devient biaisé, puis d'un coup, les gens se disent, ah, ils se lèvent la tête. Puis il y a des gens, des fumistes, qui vont essayer d'exploiter ça à leur bénéfice. Et c'est exactement ce qui va se passer. Dans le cas de l'histoire de Paul Benevitz, elle va susciter énormément d'intérêt auprès des gens qui ont un discours plus éclaté, hein. Donc, cette fringe, hein, ces gens plus extrémistes, elle va rejoindre ces extrémistes qui, depuis un certain temps, hein, parce que cette histoire-là, elle n'est pas nouvelle. L'idée de la base souterraine, les extraterrestres, les reptiliens, ça circule déjà dans l'univers des ovnis. Donc, ce que Doughty raconte à Paul Benevitz, ça ne vient que confirmer ses propres croyances, et Paul Benevitz s'empresse rapidement de les faire circuler dans le milieu des ovnis. Il dit, voilà, on avait raison d'y croire parce que les militaires viennent de me le confirmer. Et là, autour de lui, des gens vont reprendre ce discours-là. Certains vont prendre le train en marche. Je pense, par exemple, un type qui s'appelle Phil Schneider, qui, lui, va monter dans le train en marche en disant, oh, c'est sûr que c'est vrai qu'il y a une base à Dulcé. Il y a même déjà eu des affrontements entre les extraterrestres et les militaires. Et moi, j'étais un des militaires qui a survécu à cette incroyable guerre entre les humains et les extraterrestres dans la base de Dulcé.
On dérape à peine.
Oh, à peine! Écoute, et avec lui, bien sûr... Comme je l'ai mentionné, les gens qui appartiennent à cette zone, cette communauté plus extrémiste, je pense à des gens comme William Cooper, John Lear, Linda Moulton Howe, qui sont des noms très connus dans le milieu des ovnis, qui ont des discours excessivement extrémistes, vont vite rejoindre Paul Benevitz et vont se faire aussi le propagandiste de cette histoire-là. Mais, entre-temps, Paul Benevitz a cessé de s'intéresser à la base militaire de Kirtland et c'est exactement ce qui était le souhait des autorités.
Okay.
Mais Paul Benevitz, malheureusement, commence à perdre pied. Là, il y a ces histoires de la base de Dulcé, puis là, il rencontre de ces gens-là, et on s'enfonce lentement dans cette espèce de paranoïa, de théorie du complot, les reptiliens et tout le reste. Et là, éventuellement, en 1988, ce fameux Paul Benevitz va publier un article qui s'appelle Projet Beta, un article qui paraît dans les périodiques et les fanzines consacrés à la question des ovnis, et dans laquelle il élabore un plan pour qu'on puisse reprendre le contrôle de la base de Dulcé qu'il croit être tombée aux mains des extraterrestres. Donc, écoute, sa source première, c'est cet individu, ce Phil Schneider, qui dit avoir survécu à une attaque à la base de Dulcé, d'être le survivant d'une guerre entre humains et extraterrestres. Donc, sur la foi des déclarations de ce Schneider, Paul Benevitz écrit un espèce de scénario qu'il appelle Opération Projet Beta, dans lequel il raconte comment sur la foi de ce qu'on lui a décrit, que Schneider lui a décrit, comment on pourrait à nouveau pénétrer dans la base et reprendre à nouveau le contrôle de la base. Bref, Paul Benevitz perd le contrôle de sa vie. Et il va faire 3 séjours en institut psychiatrique, parce que, bon, autour de lui, il y a sa famille, et on voit bien que ce type-là a comme perdu complètement le nord. Je ne crois pas que c'était le souhait de Richard Doughty et des gens qui étaient au département de la Défense quand on a voulu aiguiller Paul Benevitz vers autre chose. Je pense pas que leur objectif était de l'envoyer dans un institut psychiatrique. Malheureusement, des problèmes de famille, des problèmes émotifs avaient rendu fragile Paul Benevitz. Il va faire 3 séjours en institut psychiatrique. Il va décéder en 2003. Complètement discrédité par la communauté ufologique et à moitié fou, pratiquement. Les gens ne le reconnaissent plus. Il tient des discours tout à fait décousus. Mais néanmoins, son histoire de la base de Doucy va faire du chemin, puis elle continue d'en faire du chemin. Elle va être reprise notamment par les extrémistes de la question des ovnis. Hein, je les ai mentionnés tantôt, principalement William Cooper, John Lear, Linda Moulton Howe. Hein, pour te donner une idée du genre de personnage que c'est, prenons par exemple William Milton Cooper, c'est un type qui s'est intéressé à la question des ovnis. Il avait une émission de radio qui s'appelait The Hour of the Time, dans laquelle il racontait toutes les théories du complot. Et puis, vers la fin des années 1990, donc après l'affaire Paul Benevitz, il va peu à peu s'éloigner de la question des ovnis. Lui qui tient un discours là, tout à fait fantaisiste. Là. Bon, les bases, il adhère à tout. Là. Les bases extraterrestres, les reptiliens, les extraterrestres enlèvent les humains pour les dévorer parce que les extraterrestres sont cannibales. Donc, il tient ce discours-là tout à fait fantaisiste. Et puis, peu à peu, à la fin des années 90, il va rejoindre, il va se radicaliser, rejoindre les mouvements d'extrême droite. Et éventuellement, il va y avoir un affrontement. D'abord, au départ, le département du revenu aux États-Unis vont questionner Milton Cooper parce que visiblement il n'a pas payé d'impôts pendant des années. Il refuse de payer ses impôts, refuse également de remettre des déclarations d'impôts. Et éventuellement, le bureau des finances, si tu payes pas tes impôts, tu vas avoir des nouvelles. Il y a 2 choses auxquelles tu peux pas échapper, la mort et les impôts.
C'est bien dit, c'est totalement ça.
Et donc, éventuellement, les gens vont se présenter chez William Milton Cooper pour colliger, hein, pour ramasser, récupérer les argents, les dus. Et il va littéralement les mettre à la porte et éventuellement... ces gens-là vont revenir chez Milton Cooper. On est le 6 novembre 2001 à ce moment-là. Ils sont accompagnés des agents du bureau du shérif d'Apache County. Et puis, il va y avoir une fusillade. Un des policiers va être atteint d'une balle à la tête. Il ne mourra pas de cette balle-là, mais il est gravement blessé.
Okay.
Mais bien sûr, dans la fusillade, William Milton Cooper est abattu. Donc, ça te montre un peu là, le discours très extrémiste de ces gens-là. Et Milton Cooper n'est que l'un d'entre eux. Là. Il reprend, pour lui, dans ses écrits, il reprend le discours de Paul Benevitz. C'est exactement la même chose avec John Lear. Pour te donner quelques lignes également, John Lear, c'est un pilote, Il est d'ailleurs le fils de William Lear, le créateur de du jet Lear, hein, donc de la compagnie aéronautique Lear. D'ailleurs, faut quand même le dire, désavoué par son père à cause de ses discours un peu fantaisistes. Son père a dit, bon, il a travaillé à un moment donné, John Lear a travaillé pour la CIA, les services de renseignement. Il a sombré littéralement dans les théories du complot. Il est décédé en 2022, en début d'année. Et écoute, il racontait des trucs tout à fait fantaisistes, dont il reprenait bien sûr à son compte les déclarations de Paul Benevitz, la base souterraine d'Oulcé, les extraterrestres qui se battent avec les humains, les discours également de Cooper, les extraterrestres sont cannibales, ils enlèvent les humains puis ils les mangent. Là. Ben, il va même ajouter que depuis longtemps, il y a des bases sur la Lune d'extraterrestres. Il va même aller jusqu'à déclarer à un moment donné dans une entrevue qu'il y aurait quelque chose comme 1 million d'extraterrestres qui vivraient sur la face cachée de la Lune. Donc, rien de moins. Et je te dirais le troisième...
Une face qu'on n'a jamais vue.
Non, bien sûr. Même s'il y a des satellites qui tournent autour de la Lune, on a toute une cartographie de la face cachée de la Lune. Des bases qui pourraient abriter 1 million d'extraterrestres, on l'aurait vu.
Ouais,
mais bien sûr, dans ce discours-là, toujours très extrémiste, tu comprends qu'on justifie toujours ces bases, on les a vues, le gouvernement les a, la NASA a des photos de ces bases.
Et les cache.
Bien sûr, on nous les cache. Hein. Et là, tu dis, bon, OK, parfait. Et puis, je te dirais, le troisième grand propagandiste des idées de cette base de Doucy souterraine, donc ce discours extrémiste, c'est une certaine Linda Moulton Howe. Elle est toujours vivante, elle a 80 ans. Elle est une documentaliste. Elle a fait un assez bon documentaire dans les années 80 qui s'appelait A Strange Harvest, dans lequel elle parlait des mutilations animales. Donc, depuis les années 70, on a attiré l'attention sur des têtes de bétail qu'on retrouvait mortes dans des plaines, sur des terrains. Et puis, à écouter parler ces gens-là, certaines des mutilations certains animaux, par exemple, avaient la langue enlevée. Dans d'autres cas, des vaches, on avait retiré le pis, les organes sexuels, l'anus, etc. Et à écouter les gens qui sont les propagandistes de ces histoires de mutilations animales, certaines de ces mutilations auraient été faites avec une dextérité chirurgicale. Et là, bien sûr, quand on est dans une situation comme celle-là, je peux t'assurer que les extraterrestres sont jamais très loin. Donc, rapidement, on nous dit, ça y est, c'est les extraterrestres qui viennent mutiler des animaux. Mais tu sais, depuis les années 1970, c'est des centaines, sinon des milliers de têtes de bétail qui ont été mutilées. On se demande à quoi ça peut bien servir pour les extraterrestres de mutiler on and on and on des vaches puis des bœufs, tu sais. Je dis, peut-être qu'on va découvrir éventuellement que dans une galaxie très lointaine, il y a un commerce de portefeuille en peau de pis de vache, mais en dehors de ça, ça paraît assez invraisemblable. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes qui ont été menées indépendamment, en dehors de ces milieux qui croient aux extraterrestres, etc., toutes les enquêtes qui ont été menées par des vétérinaires, il y a eu une enquête semblable qui a été menée dans les années 80 par la GRC. Une enquête menée également dans les années 80 par le FBI, parce que cette histoire-là a été remontée en haut niveau. Et le sénateur de l'État du Nouveau-Mexique à l'époque, Harrison Schmitt, et on ne lésine pas avec Harrison Schmitt, puisque c'est l'un des 12 hommes à avoir marché sur la Lune. Donc, c'était le géologue de la mission Apollo 17. Il a marché sur la Lune. Il est devenu par la suite le gouverneur de l'État. Et comme les gens se rapportaient, c'est une région très agricole, hein, le Nouveau-Mexique, on a énormément d'agriculture. Donc, les gens, les éleveurs de bovins disaient, ben écoute, on a trouvé des vaches, nos vaches ont été mutilées, on veut savoir ce qui se passe. Et éventuellement, l'affaire est remontée jusqu'au Congrès et on a chargé le FBI d'enquêter sur cette histoire-là.
Et on a appris finalement que c'était le Chupacabra.
Non! je vois que t'as de la suite dans les idées, mais non! Donc, une enquête qui a été menée par un type qui s'appelle Kenneth Rommel, qui a été chargé d'enquêter sur ces mutilations animales, et son enquête conclut qu'il n'y a aucune mutilation qui est l'œuvre, qui présente quoi que ce soit d'exotique. Toutes ces mutilations, toutes celles sur lesquelles lui a enquêté, toutes celles sur lesquelles il s'est documenté auprès des services vétérinaires, montrent très clairement que ces animaux sont morts de leur belle mort. Quant aux mutilations, elles ont été faites dans la plupart des cas à 99% de façon post-mortem par des animaux charognards, principalement des coyotes et des busards.
OK, vois-tu, Christian, il y a un auditeur qui est très allumé puis qui a dit, on appelle ça des vautours. C'est probablement des oiseaux.
Donc, des busards, effectivement, ça fait partie de la famille des vautours. Et les busards, hein, d'ailleurs, lui-même, Kenneth Rommel, a pu l'observer parce qu'à un moment donné, il travaillait avec les différents services de police et les Texas Rangers qui travaillaient en collaboration avec l'enquête du FBI, ce qu'ils ont fait à un moment donné, comme on avait surveillé un champ où on disait qu'il y avait des mutilations animales, comme ça ne se produisait pas, les Texas Rangers ont acheté un animal, un veau, disons-le, à un agriculteur, et ils l'ont abattu. Un veau malade, entendons-nous, là. Le veau était malade, on achète le veau malade et on l'abat d'une balle à la tête. On laisse le veau sur le terrain et les Texas Rangers s'assoient dans leur voiture et attendent pour voir ce qui va se passer. Et très rapidement, ils ont vu arriver des busards, donc de cette famille des vautours. Hein. Ce sont des oiseaux qui ont un très long cou. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que les premières parties de l'animal auxquelles ils se sont attaqués, ce sont d'abord les yeux. Donc, ils ont mangé les yeux. Donc, effectivement, dans le cas des mutilations animales classiques, si on croit les amateurs d'ovnis et d'extraterrestres, c'est les yeux ont été enlevés, la langue a été enlevée, les organes génitaux ont été enlevés, ainsi que l'anus, et parfois même des organes internes ont été enlevés sans qu'il y ait de coupure extérieure.
Okay.
Donc, les Texas Rangers regardent ce qui se passe. Les busards arrivent. Ils se mettent à picorer autour de la victime. La première chose qu'ils attaquent, c'est les yeux. Ensuite, parce qu'ils ont un long cou et une petite tête, ils peuvent rentrer leur tête dans la bouche de l'animal et arracher la langue. Et ensuite, ils ont
Sans faire trop de dégâts.
sans faire trop de dégâts. Okay. Et ensuite, ils sont allés, d'ailleurs, dans le cas des mutilations animales, comme le disait si bien Kenneth Rummel dans son rapport, quand il manque un œil de l'animal, c'est toujours l'œil qui est exposé, jamais l'œil qui est comme à terre, tu comprends? Ça, déjà, ça donne un indice. Si c'était des extraterrestres, ils enlèveraient les deux yeux, pas seulement l'œil exposé. T'sais. Donc, c'est toujours cet œil-là qui est manquant. Et ensuite, ils ont vu les busards aller derrière la partie postérieure de l'animal. Et écoute, espérons que vous avez déjà terminé votre souper, mais il se rentrait la tête directement dans l'anus.
Hein, la tête, Dieu,
littéralement dans l'anus, et remontait là, dans le rectum pour aller manger les parties les plus comestibles, les plus tendres.
C'est violent, la nature. Hein? Ouais, c'est la loi de la nature.
Et il faisait ça également avec les organes génitaux. Bref, uniquement en regardant les Texas Rangers, uniquement en regardant les busards, et ensuite, une fois la carcasse qui est laissée là, souvent, il faut savoir que dans ces grandes plaines, hein, le Texas, le Colorado, le Nouveau-Mexique, les agriculteurs n'entrent pas leur bétail, comme on le fait généralement au Québec, on entre le bétail dans la ferme. Hein, le soir, on réunit les vaches, puis on les rentre dans l'étable. Mais pas dans ces grandes plaines-là. Hein, les animaux sont laissés comme ça dans les pâturages, et souvent, l'animal qui est mort va être retrouvé deux ou trois jours après son décès. Et ce que mentionne Kenneth Rummel dans son rapport, c'est qu'une fois que l'animal a été picoré un peu par les busards, etc., ben évidemment, les asticots vont se mettre de la partie. D'autres animaux charognards vont arriver, les coyotes et autres.
Parce qu'eux autres, ils mangent aussi les asticots, ils sont pas difficiles, fait qu'ils voilà. font pas
et
le tri.
Comme l'animal est mort depuis deux ou trois jours, le sang coagule dans l'animal. Donc, les amateurs de venir nous disent « Ah, ces bêtes, ces vaches ont été exsanguées, ont été enlevées de leur sang. » Non, le sang n'a pas été enlevé, le sang a coagulé dans les veines. Et ensuite, comme l'animal est mort depuis deux ou trois jours, ben, il commence malheureusement à se décomposer et les chairs gonflent. Et la coupure, par exemple, un coyote a donné un coup de dent, a arraché un morceau de chair, ben, les tissus en se gonflant, ils s'étirent. Et là où on aurait eu une déchirure en dents de scie par la morsure, par exemple, d'un coyote, ben on a l'impression que c'est un coup de scalpel parce que les chairs ont été tendues et étirées. Okay.
Mais ce n'est que le cours de la mort, en réalité.
Oui, c'est ça. Donc, Kenneth Rummel arrive à la conclusion que, bon, tout ça, c'est son rapport. D'ailleurs, il remet son rapport en disant, voilà, toutes les mutilations à 99,9% sont visiblement l'œuvre des charognards. C'est des circonstances, à la fois sur le temps où l'animal est mort, le moment où il a été découvert, la présence d'animaux charognards dans la région. Tous ces éléments-là, combinés ensemble, expliquent 99,9% des mutilations animales. Pour l'autre, 0,01% qui reste, ben soit qu'on manque d'informations ou dans certains cas, je pense notamment à une histoire qu'avait soulevé Rummel où des adeptes d'une secte satanique avaient abattu une vache pour voler son sang, pour faire un rituel quelconque, etc. Donc, bref, il n'y a pas rien de très mystérieux dans les mutilations animales. Mais bref, Linda Moulton Howe fait en 1980, elle est l'une de ces propagandistes, parce qu'on revient à notre Paul Benevitz.
Oui.
Donc, dans l'histoire de Paul Benevitz, les grands propagandistes ont été William Milton Cooper, abattu par la police parce qu'il était devenu un fondamentaliste, pas un fondamentaliste, mais un complotiste, pardon, et très extrémiste, faisant partie des survivalistes. John Lear, ce pilote un peu déjanté qui raconte à peu près n'importe quoi, dont des millions d'extraterrestres qui vivraient sur la Lune. Et Linda Moulton Howe, donc, elle produit en 1980 un documentaire assez bien qui s'appelle The Strange Harvest, dont elle parle de ses mutilations animales, mais on voit, comme pour dire l'expression, le jus pont dépasse, pardon, et on voit qu'elle tend à ce moment-là à imposer dans sa vision du documentaire une activité surnaturelle ou extraordinaire ou exotique. Hein. Elle raconte sans trop de preuves, sans trop s'appuyer sur grand-chose. Elle dit, ben voilà, on peut éliminer les animaux charognards, etc., ce qui n'est pas vrai du tout. Et ensuite, elle fait dans les théories du complot. Et aujourd'hui, elle est 100% dans les théories du complot,
ben oui.
et les discours tout à fait fantaisistes, là. Les cercles céréaliers, les bases souterraines, tout ça.
La plus récente, après ça, on va devoir s'arrêter, mon cher Christian, le temps est écoulé, mais je viens de voir qu'il y a une dizaine de jours, une vidéo de 2017 est réapparue, et elle, la dernière grosse théorie complotiste qu'elle a sortie, c'est que l'intelligence artificielle au Japon aurait tué 29 scientifiques dans un laboratoire, et là, c'est partagé sur Twitter. Comme ça a ressurgi pour une raison que j'ignore, mais c'est une des grosses théories du complot qu'elle a avancée.
une bonne là, qui nous touche directement. À un moment donné, il y a 2 ou 3 ans, Linda Moulton Howe publie sur sa page, elle a une page web qui s'appelle Earth Files, et elle publie là-dedans une vidéo de quelqu'un d'un Montréalais qui a enregistré une nuit à Montréal, une espèce de son modulé, un peu qui ressemblait un peu à une trompette. Alors elle fait entendre, elle met ça sur son site, et là elle dit, voilà, parce qu'à un moment donné, on s'est mis à des gens un peu partout à travers le monde disant entendre des sons dans l'air, on appelait ça les trompettes de l'apocalypse. Bon, on a réussi à associer ça à différents éléments, mais bref, en tout cas, Linda Moulton Howe met cette vidéo-là en ligne. Et finalement, cette vidéo-là, c'est le bruit d'une pompe qu'utilise la ville de Montréal pour vider l'égout, pour faire des travaux d'aménagement. Et rien de plus. Et quand moi-même j'ai écrit sur le site de Linda Moulton Howe, j'ai dit, puis j'ai envoyé le devis de la ville de Montréal en disant, gars, la date du 7 novembre 2013, là, c'était un travail qui était fait à cette intersection-là pour les canalisations. Ben évidemment, mon information n'a pas été publiée et elle a continué à faire la promotion de cette vidéo dans laquelle on entendait des espèces de trompettes, mais qui n'était rien de plus que des travaux d'aménagement des égouts de Montréal. Donc, ça nous montre un peu le personnage. Hein. Elle mange à tous les râteliers dès qu'il est question d'exotisme, de théorie du complot, des extraterrestres, des basses. Le discours le plus extrémiste qu'on peut trouver dans ce milieu-là, ben Linda Moulton Howe se fait la propagandiste de ça. Et tu comprends que lorsqu'elle a entendu l'histoire de Paul Benevitz qui avait une base souterraine à Dulce, ben très rapidement, elle aussi a pris le train en marche.
Et ces gens-là passent le relais. Puis ça fait en sorte qu'il y a quoi, 2-3 ans, là, on avait prévu une grosse course pour essayer d'accéder à Area...
Zone 51,
oui. Exactement. Fait que ça continue de génération en génération. Christian, c'était super fascinant encore ce soir. On a mis la table pour la semaine.
On a déjà fini!
Déjà! Puis là, j'arrêtais pas de tasser les pubs parce qu'on dépense un peu notre temps. Mais ça a été super. On a mis la table pour la semaine. On est de retour demain pour les auditeurs à 19h.
Sérieusement, là, je croyais qu'il était 19h30.
Ça a passé extrêmement vite. C'est incroyable. Te l'accorde. Ben, merci à toi. Puis c'est parce
ça
que
fait plaisir.
T'as des sujets toujours passionnants. Ça nous fait plaisir de t'avoir en onde. À demain, Christian.
Merci. Bye-bye.
Bye-bye.